grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le mardi, nous sommes le mardi 28 octobre 2014. Bienvenue à ce grand dialogue consacré à l'excision. Ce débat est réalisé en partenariat avec la Fondation Ford. Voici de quoi il sera question dans ce débat. Le constat des ONG, le tabou social, les avancées en matière de lutte contre l'excision. Nos invités, Citan Cissé, coordinatrice générale du programme My Right, My Voice. Anaï Sagara, du programme national de lutte contre l'excision. Docteur Ali Di Agali Wele, directeur exécutif de l'AMPPF, Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Famille, et un religieux, l'imam Ismaël Ba. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara coordonne à la technique.
Studio Tamani.
L'excision est considérée depuis toujours au Mali comme un sujet tabou et à cause de ce mythe, plus de 90% des femmes sont touchées par le phénomène. Si certaines régions ont abandonné la pratique, d'autres pratiquent encore l'excision. Question de tradition ou de religion, nous en serons plus dans ce débat. On a l'impression que le phénomène prend de l'ampleur malgré la multitude de ONG intervenant dans le secteur. Le Mali n'a toujours pas officiellement interdit cette pratique, contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Vous vous attendez à des réponses. Les spécialistes sont justement là pour en débattre. Alors, où en est-on aujourd'hui de la lutte contre l'excision et du constat que les ONG font sur place? Je m'adresse là à Anaï Sagara du programme national de lutte contre l'excision.
Merci beaucoup,
Monsieur Sidibé.
De nous donner l'opportunité aujourd'hui de parler d'une question vraiment délicate, une question considérée en un moment comme une question tabou. Alors aujourd'hui, les associations ONG encadrées par le CNAPN, le Comité national d'abandon pour l'abandon des pratiques néfastes à la santé de la femme. Donc c'est le CNAPN, c'est le CNAPN qui regroupe une centaine d'ONG et associations, travaillent intensivement sur le terrain. Et le fruit de leur travail, c'est que beaucoup d'ONG de villages sont en train d'aller vers l'abandon de cette pratique du Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous comptabilisons à peu près 1042 villages qui sont allés vers l'abandon de la pratique de l'excision, qui ont d'ailleurs signé des conventions pour l'abandon des pratiques néfastes. Et d'autres villages sont en voie. Et nous avons dénombré aussi des villages qui sont très mitigés, des villages qui sont en voie et des villages qui sont complètement contre la pratique de l'excision. Alors, mais tout compte fait, quand même, les ONG, les associations, les services techniques appuyés par les partenaires techniques et financiers, en tout cas, travaillent intensément au niveau de la base pour que cette pratique soit vraiment oublié un jour.
D'accord. Alors, madame, vous êtes Citan Cissé, vous êtes coordinatrice générale du programme My Right, My Voice. C'est un mot anglais. Moi, je ne parle pas bien anglais. Est-ce que je prononce bien d'abord le nom?
Oui, c'est My Right, My Voice.
Alors, que faites-vous dans ce programme?
Alors, My Right, My Voice, c'est un programme multi-pays qui est mis en œuvre dans 8 pays à travers le monde. Sur financement du gouvernement suédois avec la coordination de la coopération suédoise. Nous nous occupons de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aborde les questions sur l'excision.
Voilà. Alors, jusque-là, vous existez depuis combien de temps et quelles sont les avancées que vous avez faites justement dans le domaine de l'excision?
Alors, My Right, My Voice est au Mali depuis juillet 2012. Normalement, c'était en décembre 2011, mais voilà, la crise nous a mis un peu en retard. On a commencé la mise en œuvre réelle à partir de juillet 2012 et nous allons continuer jusqu'en décembre 2015 probablement. La première phase était prévue jusqu'en décembre 2014, mais on est dans un processus d'extension. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre de ce programme, d'abord, nous avons développé des outils numériques, dont une plateforme numérique qu'on a appelée Click Info Ado, et qui est composée de 18 leçons sur les questions essentielles sur la santé sexuelle des adolescents et des jeunes, et qui aborde la question de l'excision, du mariage précoce, des violences, et voilà, des IST.
Alors, c'est un site web ou bien c'est quoi?
Oui, c'est téléchargeable sur un site web. Nous avons un site web aussi, clickinfoado.org. La plateforme est téléchargeable, j'ai amené les CD pour les autres, je vous en donnerai tout de suite.
Malheureusement, les auditeurs n'ont pas l'opportunité d'avoir ces CD-là. Donc dites-nous concrètement comment est-ce que ça se passe. Vous téléchargez et puis les adolescents, ont, comme son nom l'indique, ont des réponses à certaines questions.
Alors ça, les adolescents, ils ont les réponses directes à travers une autre plateforme qu'on appelle Weleli Ado Mali. C'est une plateforme qui est d'ailleurs logée à la MPPF. C'est une plateforme SMS. Qui fonctionne avec Malitel, mais prochainement aussi avec Orange. On est dans le processus, on a déjà le numéro, on attend l'activation. Donc là, ça permet aux jeunes d'avoir les questions en temps réel. On a des téléconseillers qui sont formés, qui travaillent sur ces questions-là du lundi au vendredi. Et le week-end, les questions sont un peu en suspens et ils sont répondus le lundi à la première heure. Maintenant, pour la plateforme mobile, excusez-moi, on forme les enseignants. Au niveau des écoles, on a des écoles partenaires. On forme des enseignants qui donnent ces cours-là aux élèves avec des projecteurs et l'ordinateur.
D'accord. Alors, nous vous enverrons une facture pour la présentation qui a duré un peu sur votre projet. Et alors, docteur Ali Di Agali Wele, vous êtes directeur exécutif de la MPPF, vous êtes médecin. Dites-nous, quelle est la différence aujourd'hui entre l'excision et les mutilations génitales? Y a-t-il une différence entre ces deux?
La différence, comme on dit, savoir, il y a une terminologie. Et l'excision, comme on dit, sur le plan médical, sur le plan terminologique, c'est enlever une partie. Et quand on enlève une partie, et il faut avoir le contexte. Et l'appellation mutilation, c'est juste pour mettre l'accent. Et si le fait que la pratique n'est pas une bonne pratique, et mettre l'accent sur le fait que c'est des situations qui rendent la femme victime. Parce qu'une mutilation, la notion d'agressivité est là. Donc il faut mettre l'accent sur l'agressivité. Et c'est pourquoi certains préfèrent cette terminologie en matière de droit. Donc, mais sur le plan social, et pour être en phase avec certaines coutumes, certains préfèrent l'excision. Voilà, pour ne pas blesser.
Alors, on le sait, certaines régions du Mali ont un faible taux de jeunes filles excisées, sinon d'enfants excisés. Contrairement à d'autres régions du sud, comme Koulikoro, Anaïs Sagara du programme national de lutte contre l'excision, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans ces différentes régions au Mali?
Merci, monsieur Sidibé. Aujourd'hui, nous avons quand même une étude qui a été rendue publique, EDSM 2012-2013. C'est une étude qui a commencé depuis 2012, mais c'est arrivé en 2013. Donc on félicite vraiment l'équipe qui a mené cette étude. Et cette étude nous a montré que la pratique est en train de baisser dans toutes les régions, sauf dans la région de Mopti. Et l'étude, d'ailleurs, au passage, je vous informe que l'étude n'a pas concerné les trois régions du Nord. Il s'agit donc de Tombouctou, de Gao et de Kidal. Et encore trois cercles aussi de la région de Mopti, donc les cercles de Douanza, Iwaru et Tenekou. Mais avec tout ça, le taux est aujourd'hui de 91%. Mais quand on voit les chiffres comme ça, 91% en 2012-13 et 85% en 2006, on a l'impression que nous sommes en train de grimper. Mais ce n'est pas ça, parce que déjà, ces régions n'ont pas fait l'objet d'enquête. Et dans toutes les régions, il y a une baisse. Par exemple, quand vous prenez la région de Kai, en 2006, c'était de 92,6%.
Et en 2012-13, le taux est de 90%. Donc, il y a 2,6 points de gagné. Et disons, ça, c'est le district de Bamako. Dans la région de Kaï, c'était en 2006, c'était 98,3. Et aujourd'hui, nous sommes à 95%. Donc, ainsi de suite. 97 pour Koulikoro en 2006 et 94 en 2012.
Alors, est-ce que les ONG qui évoluent dans le secteur enregistrent des progrès dans le cadre de la sensibilisation des populations?
Oui, c'est ce que j'avais dit tantôt. J'ai dit que le programme national en tant que tel n'est pas une structure qui va travailler sensibiliser sur le terrain. Nous sommes une structure de coordination. Nous coordonnons tout ce que les acteurs font en matière de lutte contre la pratique de l'excision. Donc, tous ces abandons, tous ces villages qui ont signé des conventions, il faut les mettre à l'actif des ONG, des associations. Nous ne faisons que coordonner, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
Alors, autant de jeunes filles qui ont été soumises à cette pratique, sans mesurer les conséquences, avec vous, docteur, vous êtes à la tête d'une association qui défend la famille. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux dans ce cadre-là aussi des conséquences de l'excision?
Merci. Et comme on l'a dit, l'excision, d'abord la terminologie, et c'est très important de savoir. Et on fait allusion à l'ablation d'une partie, et qui parle d'ablation d'une partie, il y a un problème de cicatrisation, et avec tous les risques d'hémorragie, d'infection qui peuvent survenir. Et par rapport à ces questions, et notre association, l'Association Malienne pour la protection et la promotion de la famille, a mis l'accent sur ce problème. Et comme on l'a dit, c'est un problème de santé publique. Une fille blessée est une femme blessée. Et comme on l'a dit souvent, s'il y a une mauvaise cicatrisation, il y a plusieurs conséquences. Ça peut jouer sur l'accouchement, ça peut jouer sur la vie sexuelle de la femme en question. Et qui regarde toutes ces difficultés, et c'est la famille qui va en pâtir. Et que s'il y a des difficultés dans la vie sexuelle, forcément, il y a un déséquilibre social. Et ce déséquilibre peut se répercuter dans la communauté. Et comme nous savons aussi, les questions de mortalité maternelle et infantile, c'est un des éléments, la mutilation génitale féminine, sinon l'excision génitale. Et les conséquences sont énormes. Il y a les blessures, comme on dit, psychologiques chez la petite fille. Et c'est un élément important. Parce qu'au moment où on fait l'excision, et généralement c'est à bas âge. Et ça marque l'enfant, ça marque. Et les cicatrices qui sont là aussi, lors des premiers rapports sexuels, peuvent être des sources de blocage chez cette femme, chez cette fille, et qui peut vraiment continuer durant toute sa vie conjugale, et qui a vraiment des conséquences encore négatives sur le lien familial. Et il y a des risques souvent graves, les hémorragies. Et on est nécessaire de le dire, il y a des cas d'excision tout de suite, quand l'hémorragie est forte, et ça mène le décès. Et c'est des situations désagréables qu'il ne faut pas vraiment vivre. Et au-delà, il y a des infections aussi qui peuvent venir, des infections urinaires, des infections générales, qui peuvent amener la stérilité chez la fille. Bref, c'est un fléau qu'il faut vraiment circonscrire pour trouver une solution.
Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec les tabous dans ce domaine de l'excision. Et je passerai la parole à madame pour nous dire pourquoi son mouvement, pourquoi son programme a choisi de s'impliquer dans le cadre de l'excision et quels sont les volets d'intervention dans ce domaine.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, vous écoutez le programme du Studio Tamani à travers 20 radios dans le pays, 3 à Bamako, Benkan, Guintan et Liberté. Alors, nous sommes à la deuxième partie du débat consacré à l'excision en partenariat avec la Fondation Ford. Ce deuxième volet est consacré au tabou social. Nos invités, Citan Cissé, coordinatrice générale du programme My Right, My Voice, Anaï Sagara du programme national de lutte contre l'excision, Dr. Ali Mali, dit Agali Ouélé, directeur exécutif de l'AMPPF, Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. Et nous espérons avoir le religieux imam Ismaël Ba au téléphone. On me fait signe qu'il est au téléphone. Alors nous allons en profiter avant que l'imam ne parte à la mosquée. Alors, monsieur Ba, bonjour.
Bonjour.
Assalamu alaikum. Alors, vous avez certainement raté certaines interventions autour de cette table concernant justement ce sujet de l'excision. Alors, que dit la religion concernant ce fléau qu'est l'excision?
Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'excision, c'est que l'initiation islamique a dit sur l'excision du garçon, ça c'est obligatoire. Mais contrairement aux filles. Donc pour les filles, il n'y a pas de texte qui a obligé l'excision pour les filles. Donc tout simplement, on a des textes qui montrent que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas du tout obligatoirement comme pour le garçon.
Alors, est-ce que les fidèles sont suffisamment informés de cette pratique qui relève de qui n'a pas d'obligation sur la petite fille, mais comme vous l'avez dit, c'est recommandé. Est-ce que les fidèles sont suffisamment informés de cela?
Oui, depuis quelques années, comme il y a eu beaucoup de problèmes pour ce sujet, bon, donc après ça, maintenant, je crois que nous, les religieux, bon, on a commencé à faire passer le message, à faire comprendre les fidèles, parce qu'il y avait beaucoup qui n'avaient pas compris cela avant, bon, mais actuellement, avec les efforts que j'ai en train de mener, là, donc je crois que les fidèles à comprendre ça. C'est pourquoi si quand on regarde maintenant dans l'ensemble des pays, on voit beaucoup de musulmans maintenant qui sont en train de laisser cette pratique pour les filles.
Alors,
c'est grâce aux religieux, ceux qui sont en train de s'expliquer aux gens.
Alors, certains ont trouvé des termes qui sont beaucoup ancrés dans la religion musulmane. On parle même de kadin, la selidi, traduction, faire prendre à l'enfant ses ablutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette terminologie?
Non. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de texte qui oblige franchement les filles pour l'excision. Mais contrairement aux garçons. Les garçons, ça c'est tout à fait obligatoirement. Il y a des textes qui ont déjà précisé ça. Et tout le monde le sait. Bon, maintenant, l'excision, ça existait hein, depuis même avant l'islam. Il y a des nations qui pratiquaient ça et de tout le temps. En Égypte et puis un peu partout dans le monde, mais même avant l'islam. Mais donc l'islam est venu, l'islam n'a pas parlé de ça, n'a pas obligé ça pour les femmes. Donc les gens sont en train de mélanger entre certaines traditions et l'islam. Donc ça existait depuis avant l'arrivée de l'islam.
Alors, c'est une pratique aujourd'hui qui est une réalité dans le pays. Et quelle est la vision du religieux par rapport aux conséquences de cette pratique?
Bon, conséquences, comme tout le monde sait, avec la médecine moderne maintenant, que les médecins nous ont expliqué à tout le monde, les gens ont compris, il y a beaucoup de problèmes sur ce sujet. Bon, comme l'islam n'a pas exigé ça, donc vraiment, on est en train de faire, il faut faire comprendre, il faut que les fidèles comprennent que vraiment, n'y a pas de texte, ni dans le Coran, ni dans les hadiths qui oblige. Même s'il y a des textes dans les hadiths qui disent que c'est une bonne chose, mais l'islam, vous savez, l'islam, des fois, il y a des pratiques que les gens utilisaient souvent. Bon, si on ne voit pas de danger, donc l'islam laisse ça. Donc ça fait partie de ces genres de trucs. Mais l'islam n'a jamais exigé ça pour les femmes. Donc les dangers, tout le monde sait maintenant qu'avec la médecine moderne et la lutte qu'on est en train d'amener maintenant pour que les gens puissent laisser ça, que les fidèles comprennent bien et ce qui qui concerne pour les filles, que ce n'est pas du tout obligatoire.
Alors, merci beaucoup, Imam.
Voilà.
Merci beaucoup. Restez avec nous tout au long du débat. Alors, madame, je me tourne vers vous, Sitan Cissé, coordinatrice générale du programme My Right, My Voice. Quelle est l'implication, quel genre de campagne est-ce que vous menez sur le terrain par rapport à l'excision? Est-ce que la société malienne est réceptive à vos messages?
Alors, les questions de santé sexuelle, parce que nous l'abordons vraiment dans ce sens-là. Pour nous, l'excision, c'est un problème de santé sexuelle, c'est même un problème de santé publique, parce que ça a pris des proportions assez larges au Mali. Alors, nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Nous formons les jeunes, nous avons des clubs dans les quartiers, et nous faisons des campagnes à travers les jeux, apprendre en s'amusant. Parfois, c'est à travers les balanichos pour appeler le maximum de jeunes, le maximum de personnes, de parents, afin de faire passer le message sur l'excision, sur le mariage précoce, parce que c'est un peu lié dans certains milieux. On excise la fille, après on la donne en mariage. Donc, c'est des thèmes qui sont assez liés. Mais aussi, on profite pour donner tout ce que ça engendre comme conséquence sur la santé des jeunes filles. Et puis, on implique les garçons aussi, parce qu'on se dit, c'est vrai que c'est les filles qui sont excisées, oui, mais il faut que les hommes acceptent, parce que l'un des tabous, c'est que les hommes pensent que quand la fille n'est pas excisée, il y a beaucoup de problèmes, le clitoris, quand tu touches, voilà, ça gâte ta virilité, il y a beaucoup de considérations comme ça. Donc, pour nous, les filles doivent comprendre, mais aussi les hommes doivent comprendre, parce qu'ils sont les futurs époux, puisque pour qu'ils puissent accepter ces filles non excisé, il faut qu'ils comprennent depuis maintenant que l'excision voilà, a des méfaits et que la non-excision n'a aucune conséquence sur la santé de l'homme et de la santé de l'enfant, contrairement à ce qu'on dit. Voilà.
Alors, au programme national de lutte contre l'excision, quels sont les grands défis aujourd'hui pour casser cette barrière sociale autour de l'excision?
Aujourd'hui, ce qui nous entrave le plus, c'est que nous sommes confrontés à certains leaders religieux, que ce soit des musulmans ou chrétiens, mais en gros les leaders religieux, certains leaders religieux. Nous avons avec nous beaucoup de leaders religieux, surtout musulmans, qui nous épaulent dans notre lutte, mais il y en a d'autres qui nous créent vraiment de sérieux problèmes, qui malgré les différents forums que nous avons eu à organiser, à Ségou, à Kaï, à Moufti en 2010, et nous avons participé également à d'autres forums en Mauritanie, au Caire, et avec des religieux de chez nous ici. Mais avec tout ça, nous avons beaucoup de problèmes et nous n'allons pas comme trop les accuser, mais c'est la tradition et la question que nous sommes en train d'élucider, c'est une question sociale, c'est très 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 difficile. Ce n'est pas du tic au tac que nous pourrons venir à bout de la lutte de la partie de l'excision.
Alors, pensez-vous qu'il faille aujourd'hui plus d'implication des leaders religieux dans ce domaine?
Ça nous ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, nous faisons tout pour que les leaders religieux nous accompagnent. C'est des gens qui sont écoutés et ceux-là qui font véhiculer des mauvaises informations disent que la pratique est intimement liée à la religion musulmane. Et tout à l'heure, selon ce que Ismaël Ba vient de nous dire, ça nous va tout droit au cœur. Il nous a montré que la pratique de l'excision, comme d'autres religieux d'ailleurs du Mali ici, ce n'est pas une obligation pour la femme. Ça nous va tout droit au cœur. Et si il arrivait aussi à mobiliser d'autres leaders religieux pour quand même faire des prêches au niveau des mosquées, et je crois que c'est une bonne chose.
Alors, docteur Alidi Agali Ouile, vous êtes directeur exécutif de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille à MPPF. Aujourd'hui, vous agissez des fois après coup. Vous prenez en charge certaines femmes qui souffrent des conséquences de l'excision. Est-ce que vous pensez que le message est de plus en plus entendu par les différentes couches sociales au Mali?
Et effectivement, quand nous regardons le début de cette campagne d'éducation, à la date d'aujourd'hui, il y a des avancées. Et je dirais des avancées très significatives. Et c'est vrai, quand on fait allusion à l'EDS, on peut avoir cette confusion.
L'EDS?
L'EDS.
C'est-à-dire?
Et c'est l'enquête démographique et de santé. Et les chiffres, quand on regarde, on peut avoir un faux cliché, si je peux dire ainsi. Mais le plus important, c'est de savoir que les gens ont beaucoup d'informations par rapport à cette pratique et que les gens ont compris les conséquences, savent déjà qu'il y a des conséquences par rapport à ça et il y a déjà une prédisposition au changement. Et comme on l'a dit, les changements ne viennent pas tout de suite. Et on veut avoir le résultat tout de suite. Et malheureusement, un changement de comportement, il y a du temps. Il y a du temps à prendre et on ne sait pas. Et combien de temps il faudra-t-il prendre pour que les gens puissent aller à l'abandon? C'est ça la question. Et c'est vrai, il y a des villages qui ont abandonné, mais il y a des poches. Même si on abandonne, il y a des pratiques, il y a d'autres choses qui font que les gens persistent dans cette pratique. Et les messages sont vraiment acceptés. Et les gens ont beaucoup compris. Et dans les grains, les jeunes en parlent. Et tout le monde est conscient. Et vous allez vous rendre compte, vous allez discuter avec une famille tout de suite. Le chef de famille est d'accord. La maman est d'accord. Mais ils font la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des efforts pour qu'ils acceptent d'avaler à l'abandon. Et ça, c'est des questions, ça ne va pas tarder. Peut-être qu'il faut attendre quelques années pour qu'on puisse avoir l'effet escompté. Et comme ça a été dit, il y a la religion. Et souvent, c'est un plan de méconnaissance et de mauvaises informations, de rumeurs, et qui font que les gens n'arrivent pas à aller au changement. Et ensuite, ceux qui décident d'aller au changement, il y a un blocage. Il y a un blocage. Il faut faire face, dans les années à venir, à ces phénomènes, effectivement, qui va être un nouveau phénomène. Ceux qui ne sont pas excisés. C'est notre problème. Et comme on a dit, dans le temps, il y avait des groupes qui n'étaient pas excisés, et ça a toujours créé des petits problèmes, même dans les foyers. Et je pense que c'est des paramètres et qu'il faut inclure. Et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a des résultats positifs et nous pouvons dire qu'il y a des avancées par rapport au message. Et nous pouvons dire que les gens sont plus perceptibles par rapport au message parce que dans le temps, même faire une émission radio, ce n'était pas facile. En parler dans le public, ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, on a cette opportunité, cette chance vraiment de faire des débats là-dessus.
Grâce à la Fondation Ford pour en débattre ici dans le studio Tamani. Alors, Imam Ismaël Ba, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Alors, est-ce qu'il vous arrive d'en débattre de cette question assez sensible autour de vous, entre vous, leaders religieux, lors des prêches?
Oui, oui, il y a eu beaucoup de formes, hein, donc que les gens parlent souvent entre eux, hein, de l'excision, hein, tout le monde le sait, parce que comme c'est un problème, c'est devenu un problème vraiment international, même on ne peut pas dire même national. Donc, les religieux sont obligés maintenant à discuter, à débattre ça entre eux. Moi, je crois que aussi qu'il y a un problème entre les gens qui sont avec l'Église et les gens qui sont contre. Il y a un problème de communication entre eux. Parce que quand on dit souvent que c'est des rumeurs, que ça n'existe pas nulle part dans l'islam, c'est ça qui est la différence. Quelque chose qui n'est pas obligatoire, il y en a, mais... Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des textes, il y a des hadiths qui a dit qu'il dit que c'est une bonne chose. Comme c'est une pratique qui était là avant et tout ça là, il n'a pas vu un inconvénient. Donc, mais il n'a pas obligé, l'islam, législation islamique n'a pas obligé. Donc maintenant, je crois que les journalistes et tout le monde avec les religieux, il faut faire des débats souvent entre eux pour mieux passer le code. Parce que certains religieux, quand on... Tout seulement à l'islam, on dit que c'est des rumeurs, ça n'existe nulle part, or que s'il y a des textes quelque part, même si ce n'est pas obligatoire, donc ça devient choquant. Donc moi, je vais désormais, si vous pouvez vraiment organiser, à se déplacer, aller voir les religieux, et puis la façon de passer les messages contre l'excision, entre les religieux et les journalistes et les couches sociales, moi je crois que... En ce moment, les gens, tous les problèmes qui passent, on peut ranger ça entre nous.
Merci beaucoup, Imam. Restez toujours avec nous. Le taux de prévalence est de 91%. Le taux de prévalence de l'excision au Mali, 91%. 9 filles sur 10 sont à risque, 73% avant l'âge de 5 ans. Est-ce que ces chiffres inquiètent les femmes?
Oui, c'est des chiffres qui sont c'est des chiffres qui sont inquiétants. C'est des chiffres qui sont inquiétants, mais il faut pas oublier que il y a des femmes parfois ça, les enquêtes là ça concerne des femmes jusqu'à 49 ans, les femmes en âge de procréer. Donc c'est des femmes qui sont déjà passées par l'excision. Donc ces chiffres là, ça va être très difficile de revenir là-dessus. Il faut des générations et des générations pour qu'on puisse constater que des femmes d'un certain âge n'ont pas subi l'excision. Et ce qui est dommage dans l'excision, c'est que c'est les femmes qui excisent les femmes. Ce n'est pas des hommes qui excisent les femmes, c'est les femmes qui excisent les femmes. Donc je pense que... Je disais tantôt que les hommes doivent comprendre, mais je pense que les femmes doivent prendre un peu de conscience et d'arrêter de nous faire violence à nous-mêmes. Mmh. Et de considérer... quand tu parles des conséquences de l'excision à une femme... La femme te dit, oui, mais moi j'ai fait 10 enfants, je n'ai pas eu ces conséquences-là, oui. Parce qu'elle ne fait pas le lien entre ce qu'elle a subi et les conséquences de l'excision. Mmh. Sinon, moi je suis étonnée de voir une femme excisée qui dit qu'elle n'a subi aucune conséquence de l'excision, qui a des enfants, 10 enfants, donc, 5 enfants.
Ça laisse forcément des séquelles.
Forcément, parce que c'est une cicatrisation qu'elle a qui empêche la peau de se dilater. Je parle sous le contrôle des médecins qui sont là. Mmh. Et voilà, forcément, ça entraîne des déchirures, ça entraîne... Mmh. Voilà, des fistules comme des femmes qui sont au point G, au point G. Et tout, et c'est très dommage.
2 secondes de pause et nous poursuivrons avec la troisième partie.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester fidèle à cette émission et au programme du Studio Tamani que vous pouvez retrouver sur notre site web www.studiotamani.org. Cette émission est consacrée aujourd'hui à l'excision avec le concours de la Fondation Ford. La troisième partie de ce débat, nous y sommes, elle est consacrée aux avancées en matière de lutte contre l'excision. Nos invités, Citan Cissé, coordinatrice générale du programme My Right, My Voice, Anaï Sagara du programme national de lutte contre l'excision, Dr Ali Di Agali-Wele, directeur exécutif de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF, et un leader religieux, Imam Ismaël Ba. Merci à vous de toujours rester fidèles à cette émission. Alors nous allons donc entamer cette troisième partie. 90% des femmes sont toujours victimes d'excision. Fait-on assez dans ce domaine de la sensibilisation, Anaïs Sangara du programme national de lutte contre l'excision?
Merci monsieur Sidibé. Je nécessiterais de revenir toujours sur ce que j'avais dit dès le départ. J'ai dit les associations font ce qu'elles peuvent faire. Elles font ce qu'elles peuvent faire. Et déjà ce qu'elles ont fait, ça nous satisfait un tout petit peu en tout cas. Et elles sont, aujourd'hui le conseil est que ces associations, beaucoup d'associations, hein, avec le problème que le Mali a vécu, beaucoup d'associations et d'ONG n'ont plus de financement ou ils ont des financements très très précaires de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Or ça n'arrange pas tellement la lutte. Nous avons plutôt besoin de financements assez longs, 2 ans, 3 ans ou sur 5 ans. C'est ce qui est assez, c'est ça notre souhait. Mais malheureusement, nous proposons, mais les bailleurs de fonds disposent. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas quand même pu atteindre les résultats que nous avons escomptés. Parce que dans notre plan d'action de 2010-2014, nous avons dit qu'il faut descendre de 85,2% à 65%. C'était ça notre ambition. Et pour atteindre les 65%, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'ONG, beaucoup de concours qui sont demandés. Et Dieu merci, en tout cas ces associations, ces partenaires au programme national de lutte contre l'excision font ce qu'ils peuvent. Voilà, donc...
D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sagara. Je me tourne vers Dr Ali Di Agali-Wele, directeur exécutif de l'AMPPF. Est-ce que les partenaires ont relégué ce domaine de l'excision au second plan, quand on sait qu'avec la crise, certains secteurs ont été priorisés par rapport à d'autres?
Et par rapport à l'excision, je dirais tout simplement... Et c'est une question de choix. Et précisément, nous sommes dans un domaine de la santé de la reproduction. Et qui dit santé de la reproduction, l'excision fait partie. Et je pense que c'est des questions stratégiques. C'est une priorité pour le Mali et les partenaires, en fait, mettent leur sien par rapport à ça. Et toutes les dispositions, en fait, sont prises. C'est vrai, il y a un problème de financement, mais en dehors du problème de financement, je pense que c'est des organisations internes. Et ces organisations internes, en fait, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut voir. Et comme on le dit souvent, ça dépend de la façon dont on aborde la question. Et si on l'aborde sur le plan droit, il y a des partenaires qui investissent par rapport à ça. Et Et en fonction de certains milieux, il y a d'autres façons d'avoir des financements. Et en ce moment, on peut intégrer les différentes activités. Je prends un exemple dans l'éducation par rapport à la santé, l'information et la communication. On peut mettre ces paquets dans le cadre de santé de la reproduction des jeunes, par exemple. Et l'éducation au niveau des élèves, au niveau des établissements scolaires, passe au même titre que les autres thèmes par rapport aux animations. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une question de financement, c'est des questions d'organisation. Et comme on l'a dit, on ne peut pas tout lier au financement. C'est vrai, il faut chercher de l'argent, il faut des actions. Mais c'est un problème tellement complexe souvent et que moi, je le mets dans le cadre de la précipitation. Je dis bien de la précipitation. Et ce n'est pas valable seulement à l'excision. Même dans d'autres cadres, en fait, on veut avoir plus de résultats dans un bref délai. Même par rapport à la planification familiale, un exemple, on veut aller vite. Mais il y a un temps pour un changement de comportement. Et vous demandez les spécialistes en communication, on ne peut pas dire quand est-ce qu'on peut changer. Le délai, chacun a
c'est toujours des estimations.
Et voilà. Et il faut savoir tirer sur les ficelles vraiment pour aller plus vite. Et je pense que c'est un travail très fastidieux et qu'on doit savoir prendre les décisions. Et continuer avec les moyens que nous avons, l'adapter et pour qu'on puisse avoir de bons résultats.
Alors, il a été évoqué au Mali un projet de loi concernant ce domaine pour interdire la pratique de l'excision au Mali. Madame, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de prêcher dans le désert avec cette loi qui tarde à venir? Pensez-vous qu'elle puisse être une réalité un jour au Mali?
La question de l'excision reste une question très compliquée. Je pense qu'il faut avoir une approche holistique. C'est vrai, la loi, on a besoin d'une loi, mais on a combien de lois aujourd'hui contre combien de choses qui continuent à se faire? Je pense que la loi, oui, je suis d'accord, mais il faut aller aussi avec cette approche sociale, de changement de comportement au niveau social, au niveau individuel, qui va aussi donner de la force à la loi. La loi, c'est vrai, elle tarde à venir. On va l'applaudir quand elle va venir, mais il va falloir aussi des mesures d'accompagnement. Il va falloir que la loi soit stricte, ce qui n'est pas très facile dans notre environnement. On le sait tous, on ne va pas se voiler la face, on est entre Maliens. Donc, je n'ai pas l'impression de pêcher dans le désert. Je suis pour la loi, mais je ne suis pas convaincue que la loi va être la fin de l'excision au Mali. On va avoir la loi, mais on va continuer aussi avec ce domaine social, culturel, parce que c'est très ancré. C'est vraiment très ancré. Il y en a qui n'hésiteront pas à aller en prison et continuer à exciser. Donc vraiment, c'est vrai, la loi nous aiderait. Les autorités sont très ouvertes. Hein. Elles sont très ouvertes, je veux dire. Il y a eu beaucoup de campagnes avec les autorités. Il y a eu parfois des présentations choc avec des images qui sont insupportables à regarder et tout. Mais ce facteur religieux, je suis d'accord avec l'imam, mais c'est un très gros poids aussi. Quand on a vu ce qui s'est passé avec le code de la famille, je suis convaincue qu'avec la loi sur l'excision, c'est la même chose qui se passe un peu, même si c'est pas très visible, mais c'est sûr que ça, c'est un des facteurs qui limite aussi un peu les décideurs par rapport à l'approbation de cette loi-là.
D'accord. Alors, Anaïs Sagara du Programme national de lutte contre l'excision, vous parliez tout à l'heure de la réticence des partenaires techniques et financiers pour appuyer justement cette question de l'excision. Pensez-vous que ce vide juridique aujourd'hui autour de l'excision puisse décourager les partenaires à agir au Mali contre l'excision?
Bon, ça c'est une question très difficile à répondre, mais ce qui est sûr, le programme national de lutte contre l'excision a un plan d'action. Et ce plan d'action s'étendait de 2010 à 2014, ça prend fin d'ailleurs cette année. Et dans ce plan d'action, il était question d'avoir la loi en 2014. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus à faire, à mener pour arriver à la loi en 2014. Mais vu tout ce qui s'est passé au Mali, il y a eu un grand retard et nous n'avons pas pu parler de la loi. Mais quand même, nous avons, avec l'ensemble des partenaires, nous avons mis en place un groupe appelé Groupe Pacte qui a au moins élaboré une proposition de loi avec des magistrats, des avocats et d'autres personnes qui connaissent quelque chose un peu dans la loi. Et ensemble, nous avons élaboré une proposition de loi. Cette proposition de loi a été validée. Et elle a été remise en son temps à la commission loi de l'Assemblée nationale. Et dès lors, la chose est restée comme ça. Et aujourd'hui, on assiste à un changement, au moins à 80 ou 85% des députés. Et donc, ça nous pose vraiment des problèmes. Mais Ce qui est sûr, le Mali ayant signé beaucoup de conventions relatives à la protection des enfants, aux droits des enfants, et c'est tout à fait normal qu'on aille vers la loi. Mais la loi, je vous dis, n'est pas, comme madame vient de le dire, il n'est pas dit qu'on a la loi aujourd'hui et demain l'excision va cesser. Il y a la loi, par exemple, contre le voleur. Si vous volez, vous êtes puni, mais là, ça continue toujours. Mais cette loi, si elle est là, elle protège non seulement les filles et les femmes, mais elle protège également les acteurs qui sont sur le terrain. Ça nous protège beaucoup. Donc, voilà.
D'accord. Alors, Dr Ali Di Agali Wele, vous êtes le directeur exécutif de l'AMPPF. Nous sommes pratiquement au terme de ce débat, mais je voudrais juste que vous réagissiez par rapport à cette question. Y a-t-il une relation aujourd'hui entre la réticence des partenaires et le vide juridique autour de l'excision au Mali?
Comme on l'a dit souvent, chaque partenaire a sa vision. Et tout de suite, il y aura des partenaires qui vont dire qu'il faut aller à la loi. Et comme on le dit souvent, il faut savoir raison garder. Une loi, dans la pratique et dans tous les pays du monde, elle est basée sur des principes. Et on ne prend pas une loi parce qu'on a un plaisir. Et la loi doit être en conformité avec nos valeurs, nos coutumes, nos traditions. Et si on va à l'application, il faut que la loi soit conforme par rapport à certaines normes. Et si on a des difficultés par rapport aux lois chez nous, c'est lié à ça. Parce que souvent, les lois ne sont pas adaptées. Et ça, c'est dans tous les pays. Pour avoir une bonne application, il faut ces paramètres. Et souvent, on veut aller à la loi, c'est vrai. Mais il faut une préparation. Il faut prendre le temps pour savoir sensibiliser, organiser la communauté, les faire voir. Comme on dit, c'est très important. Les gens n'ont pas la même perception. Il y a des besoins qui ne sont pas ressentis par la population. Il faut les amener à comprendre. Il faut les amener à aller à la demande, comme on dit. Et c'est en ce moment qu'on aura le résultat. Mais si on va directement à la loi, c'est souvent des mesures répressives, en fait, qui ne font pas forcément peur à tout le monde. Les gens mettent l'accent sur le social, sur leurs coutumes, sur leurs valeurs traditionnelles, et souvent ils donnent cette priorité. Et je pense que ça dépend des partenaires. Il y a des partenaires qui sont visibles, qui vont mettre l'accent sur la communication, sur le plaidoyer, comment influencer les uns et les autres par rapport à ces démarches. Et je pense que ça dépend. Et moi, à mon avis, il faut mettre l'accent par rapport à la communication, comment faire le plaidoyer, comment influencer les uns et les autres. Là, il y a des grands, comme on dit, les grands blocages. Et en ce moment, on peut avoir le résultat.
Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes Ali Di Agali Wele, directeur exécutif de l'Association malienne pour la promotion, pour la protection pardon, et la promotion de la famille à MPPF. Alors, madame, vous êtes la coordinatrice générale du programme My Right, My Voice, Cité. Si on vous demandait de faire un résumé pour un plaidoyer en faveur de la lutte contre l'excision aujourd'hui, quel serait ce plaidoyer en quelques secondes?
Je commencerai par vous dire, vous, de ne pas exciser vos filles. Ça commence par... Ça doit être au niveau individuel. J'ai pris la décision de ne pas exciser mes filles. Tu as pris la décision de ne pas exciser tes filles. Il en a fait pareil. Voilà. Je pense que finalement, l'exciseuse, elle ne viole pas les gens. Elle est à la maison. C'est nous qui prenons nos enfants voilà, pour les amener. Je pense que le changement doit être au niveau individuel. Parfois, il y a des gens qui luttent contre l'excision, mais qui excisent leurs enfants. Donc, ça fait un double langage que les communautés ne comprennent pas. Pendant que tu leur expliques que ce n'est pas bien, mais toi... De l'autre côté,
donc ça veut dire que vous menez une lutte en famille également.
Ah oui, bien sûr.
Merci beaucoup, madame. Nous sommes au terme de ce débat consacré à l'excision et au fléau, un fléau qui touche 90% des femmes au Mali. Nous avons évoqué les tabous qui sont autour de ce phénomène au Mali. Voici les trois thèmes débattus, le constat des ONG, le tabou social, les avancées en matière de lutte contre l'excision. Nos invités, Citan Cissé, coordinatrice générale du programme My Right, My Voice, Anaï Sagra du programme national de lutte contre l'excision, Dr Ali Di Agali Wele, directeur exécutif de la MPPF, Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. Nous avions également Imam Ismaël Ba, un religieux qui nous a donné la vision de l'islam par rapport à cette question. Je suis Famoussa Sidibé et il y a un collège de techniciens qui a participé à la mise en onde de cette émission dirigée par Petit Ndiara. Ousmane Diadé Touré était à la réalisation. Je suis Famoussa Sidibé. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.